les tribulations d'une institution lassalienne bayonnaise, le pensionnat Saint-Bernard. Voici la seconde et dernière partie de la conférence du frère Jacques Duiteau, frère des écoles chrétiennes, originaire de Bayonne, professeur et délégué à l'enseignement supérieur de la Congrégation des frères des écoles chrétiennes. Dans cette seconde et dernière partie, le frère Jacques Duiteau nous parle de l'histoire du pensionnat Saint-Bernard, fondé à Bayonne en 1856.
Donc vous voyez que l'objectif du pensionnat, tel que le fixe le frère Élide, est à la fois un objectif de type pratique, mais aussi généraliste. Voilà. Donc, le pensionnat Saint-Bernard commence. Donc là, vous avez ici sur le frère Élide, et vous avez, parce que le frère Élide, lui, il va quitter Bayonne au bout de 21 ans. Il va quitter Bayonne et il va continuer, je dirais, à avoir des responsabilités de plus en plus importantes jusqu'à finir supérieur général des frères des écoles chrétiennes. Et donc, vous avez ici, lorsqu'il a été nommé, eh bien, un document où les Bayonnais expriment leur reconnaissance au frère Élide, qui entre-temps est devenu supérieur général. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'une fois de plus, il y a un déménagement qui se profile à l'horizon. Pourquoi ? Ben c'est qu'au bout de 6 années, il faut se rendre à l'évidence. Les locaux de l'école communale de Saint-Esprit sont trop petits. Trop petits pour 2 établissements, une école primaire et le pensionnat. C'est pas possible de continuer. Et finalement, si on reste à Saint-Esprit, eh bien, le pensionnat va végéter. Donc, il faut trouver une autre solution. Or, nous avons vu, vous voyez comment les choses s'emboîtent sans qu'on l'ait prévu. Nous avons vu que les frères, vous rappelez Saint-André, petit collège, avaient émigré rue Vinceau, Albert Ier, aujourd'hui. Et en face, il y a un bâtiment qui appartient à M. Dubroc, qui est un des bienfaiteurs de l'arrivée des frères. Et ce bâtiment, c'est ce qu'on appelle l'hôtel Dubroc. Et dans cet hôtel, il a une valeur historique, puisque c'est dans cet hôtel que se sont rencontrés les rois d'Espagne et Napoléon. Rappelez Bayonne, les rois d'Espagne, c'est l'abdication de Bayonne. C'est pas ici qu'ils ont abdiqué, mais ils s'étaient déjà rencontrés, je dirais, les contacts préliminaires. Donc on se dit que dans l'histoire du pensionnat Saint-Bernard, l'Espagne n'est jamais très loin. Et en plus, il se trouve placé tout près du château vieux et des remparts, ce qui offre un bel emplacement pour les récréations. Évidemment, il faut de l'espace quand même pour des enfants, il faut qu'ils bougent. Et en 1863, un bail est signé et la maison est louée au prix de 7600 francs. Alors vous avez ici 2 documents, je ne sais pas si vous les voyez, parce que c'est un peu... C'est l'écriture de l'époque, hein. C'est pas là, c'est un pali. Vous avez 2 documents. Celui de gauche, c'est l'autorisation du supérieur général de l'époque qui est donnée au frère Élide de louer l'hôtel Dubroc. Et le document de droite, c'est, vous avez la signature du frère Élide et la signature de Jean Dubroc, c'est le bail de location qui se fait que le pensionnat Saint-Bernard va s'installer en face du château vieux. Bon, donc vous voyez, nous sommes dans un nouvel emplacement. Alors, je vous fais grâce des détails parce que je vois que l'heure tourne. Eh bien, c'est sur cet emplacement que le pensionnat Saint-Bernard va se développer pendant 40 ans. Il va rester là pendant 40 ans, occupant non seulement la maison Dubroc, mais également un autre hôtel qu'on appelle l'hôtel Saint-Martin et qui est situé juste à côté. Et donc, ça permet une extension. Et finalement, très vite, le nombre d'élèves augmente et atteint à peu près 250. Ce qui, d'ailleurs, est la capacité maximum d'accueil. Et parmi les élèves, on trouve de nombreux Espagnols. Quand on a la liste, quand on regarde la liste des élèves, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent maintenant. Ça veut dire que le frère Hélide avait vu juste. Ce qui permettra, quelques années plus tard, au frère Hélide, parce que ses élèves, ils vont faire connaître Saint-Bernard, ce qui permettra au frère Hélide, quelques années plus tard, de conduire quatre frères en Espagne, qui vont fonder la présence lassalienne en Espagne. Ils vont d'abord s'occuper d'un orphelinat à Madrid, et ensuite, à peu près à la même époque, va s'ouvrir à Valladolid une école qu'ils vont appeler Nuestra Señora de Lourdes, et cette école existe toujours, c'est une grosse école, à Valladolid. Donc vous voyez, le calcul du frère Hélide s'est réalisé. Et d'ailleurs, c'est d'anciens élèves qui vont accueillir les frères à la descente du train. À partir du moment où l'hôtel Saint-Martin est aussi loué, les frères vont pouvoir construire une chapelle. Parce que ça, évidemment, ça fait partie normale d'un lieu d'école, d'un lieu d'éducation des frères des écoles chrétiennes. Alors, vous avez ici, par exemple, ici, l'hôtel du Broc, la cour intérieure qui était transformée en cour de récréation. Donc, c'est le nouveau pensionnat au centre de Bayonne. Et vous allez avoir une chapelle. Et ce qui est intéressant, c'est que un élément de cette chapelle va faire le lien entre l'hôtel du Broc, le Colegio San Bernardo que nous allons voir à Saint-Sébastien et le collège actuel à Bayonne. C'est ce qui va faire le lien, le trait d'union. Ce sont les peintures qui sont au plafond. C'est-à-dire que dans l'hôtel du Broc, les frères vont construire une chapelle et ils vont demander à des frères de peindre des scènes. Des scènes de, bien sûr, des scènes de l'Évangile. Et vous avez ces peintures. Alors vous avez à droite, ou plutôt à gauche, pardon, la chapelle du pensionnat Saint-Bernard, et vous pouvez voir en haut, sur le plafond, les peintures qui se trouvent à droite et qui sont actuellement, c'est une photo prise au pensionnat Saint-Bernard. Oui. Ça va être le trait d'union entre les trois Saint-Bernard, si vous voulez. Donc c'est intéressant à noter. Alors, l'histoire de ce second pensionnat Saint-Bernard, ah oui, un autre élément qui va jouer le lien, c'est les anciens élèves. C'est-à-dire que en 1896 est fondée une association d'anciens élèves, et cette association d'anciens élèves, elle va exister à Saint-Sébastien, et elle existe, je pense encore, au pensionnat Saint-Bernard à Bayonne. Alors l'histoire de ce second pensionnat Saint-Bernard s'achève le 8 juillet 1905 par un décret qui ordonne pour le 1er septembre la fermeture du pensionnat Saint-Bernard de Bayonne. Alors les frères avaient bénéficié d'un sursis d'un an. Pourquoi ? Parce que ce décret est lié à une loi, la loi du 7 juillet 1904, dite loi Combes, c'est un nom que vous connaissez, hein, qui dit ceci: nul religieux enseignant ne pourra exercer en France dans une école, quelle qu'elle soit. C'est clair. Donc le choix pour les frères, il est clair. Ou bien vous abandonnez votre vie de frère et vous restez en France. Si vous voulez continuer votre vie de frère, vous allez voir ailleurs. Voilà. Donc désormais, les frères n'ont plus d'existence légale. C'est fini, ils n'existent plus. Légalement, en France. Et alors, ça va durer longtemps. Hein. Les frères vont retrouver une existence légale en France en 2001. Sous le gouvernement de M. Jospin. Voilà. C'est là qu'on va retrouver, j'étais provincial à l'époque, et donc c'est là qu'on va retrouver une existence légale. Sinon, les frères n'existent pas. En France, jusqu'à cette époque. Légalement, j'entends. Voilà. Donc les frères, ils doivent quitter Bayonne. Et ils vont aller. Donc ils ferment le 1er septembre 1905. Et le colegio, alors je vais l'appeler en espagnol, comme ça pour bien faire la différence, le colegio San Bernardo ouvre en octobre 1905. 1er septembre, dehors, en octobre, il ouvre le pensionnat. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour expliquer, c'est quand même étonnant. Voilà le colegio San Bernardo de Bayonne, de Saint-Sébastien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le choix de Saint-Sébastien s'explique par la proximité de la frontière. Vous savez, en 1904 ou 1905, ça dépend des écoles, les frères ont mis au point une stratégie bien rodée. C'est-à-dire qu'ils s'installent de l'autre côté de la frontière, en se disant, les Français vont continuer à venir dans nos écoles. Et vous avez, par exemple, des écoles en Belgique, au long de la frontière, qui sont des écoles lassalliennes. Bon. En même temps, par exemple, en Belgique aussi, ils vont transporter la maison généralice, donc le centre, j'allais dire, de gouvernement. Bon. Donc, le choix de Saint-Sébastien n'est pas étonnant. Et en même temps, il y a aussi une autre raison. C'est que Saint-Sébastien est considéré à l'époque, et surnommé à l'époque, la perle de l'océan. C'est-à-dire que c'est un lieu où viennent les Espagnols en villégiature. Les Espagnols de Madrid. Bon. Et donc, par conséquent, ça permet un rayonnement qui dépasse le Pays Basque et qui concerne toute l'Espagne, d'où vont provenir un certain nombre d'élèves. Et vous voyez, le rêve du frère Irlide se réalise. Puisque les frères sont passés en Espagne, à leur corps défendant, ils n'ont pas cherché, mais c'est comme ça. Et en même temps, le collège va rayonner dans toute l'Espagne. Si bien que d'ailleurs, pendant un certain temps, les frères des écoles chrétiennes en Espagne, on les appellera los hermanos Bernardos, les frères de Saint-Bernard. Alors que c'était les frères des écoles chrétiennes. Et comment expliquer que la rentrée ait pu s'effectuer un mois après le déménagement? C'est parce que les frères ont su anticiper les événements. Et à cause du délai entre la loi 1904 et son application à Bayonne 1905. Ils ont un an pour se retourner. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'en mai 1904, les frères ont acheté une ferme au pied du mont Oulia qui domine Saint-Sébastien. Et la même année, ils débutent la construction d'un nouvel édifice. Et donc, le 9 octobre 1905, ils effectuent leur rentrée avec 69 pensionnaires. Évidemment, il y a eu la perte au feu, entre 250 et 69, bien sûr. Dont 49 Français. Donc il y a des familles qui vont continuer à mettre leurs enfants. Mais très vite, des familles de Saint-Sébastien inscrivent leurs enfants. Si bien qu'à Noël, le nombre d'élèves s'élève à 110. Désormais, le Colegio San Bernardo s'enracine dans une nouvelle ville, Saint-Sébastien. Et si la nostalgie de l'implantation bayonnaise subsiste, on ne quitte pas comme ça un pays où on a vécu, le cœur léger, l'avenir apparaît lié à la ville de Saint-Sébastien. Les frères font leur deuil de Bayonne et me disent, l'avenir est à Saint-Sébastien. Et en même temps, les gens de Saint-Sébastien se réjouissent. Voici ce qu'écrit un ancien élève, lors d'une réunion d'anciens élèves, un espagnol dit ceci, « Si je désire que disparaissent les causes qui conduisirent ici les frères, je souhaite qu'ils ne songent point à retourner dans leur patrie et finissent par se trouver ici comme étant dans leur propre patrie. » Donc les frères ont pris le chemin de l'émigration. Et on va appeler le pensionnat Saint-Bernard le collège hispano-français. Vous voyez, c'est en français. Hein. Alors, est-il espagnol, est-il français? Ben, il est les deux. Par les élèves qui le fréquentent. Alors, qu'est-ce qui va expliquer cet attachement de Saint-Sébastien au collège Saint-Bernard? En premier lieu, il y a là une offre scolaire de qualité. C'est-à-dire que le collegio prépare au baccalauréat français, moderne, parce que les frères n'ont pas de latin. Jamais eu de latin dans l'école des frères, jusqu'à cette époque. Donc, baccalauréat moderne, et puis le baccalauréat espagnol. Prépare les deux. Vous avez cette tradition qui s'est continuée. Moi, j'ai fréquenté pas mal les écoles du Proche-Orient. Eh bien, dans les écoles du Proche-Orient, il y a des préparations du baccalauréat français et du baccalauréat égyptien, libanais, etc. Ou israélien. Donc, une offre de qualité. Et en même temps, on trouve une filière technologique et une autre commerciale. Et toujours la même idée. Il faut s'adapter au milieu. Et l'initiative la plus originale et la plus remarquée, c'est l'enseignement du commerce. C'est-à-dire que Saint-Bernard va devenir une école commerciale. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un frère venu du Canada, il y a des échanges aussi entre les frères, un frère venu du Canada apporte des méthodes en usage dans l'enseignement canadien. Vous savez que les anglo-saxons sont des gens beaucoup plus pragmatiques que nous. Nous sommes des intellectuels. Eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Et donc, il dit, pour enseigner le commerce, il faut une méthode qui n'est pas simplement une méthode de cours. Et le principe fondamental, c'est que la formation n'est pas basée donc sur des cours théoriques, mais sur la pratique. Et pour cela, il y a une innovation pédagogique très originale qu'on va appeler la salle d'affaires. C'est que dans le collège, eh bien, on va créer une salle d'affaires, c'est-à-dire que les élèves, vous voyez la salle, vous avez des guichets, comme des guichets de banque, vous avez, comme dans une banque, les gens travaillent debout, vous aviez aussi un petit train, quand on décrit la salle d'affaires, petit train, parce que l'affaire, le commerce, il est aussi un commerce national et international, donc il faut savoir utiliser les moyens de communication. Et donc, les jeunes, ils jouent des rôles. C'est des jeux de rôles. Tantôt, ils sont banquiers derrière le guichet. Tantôt, ils sont commanditaires. Tantôt, ils sont transporteurs. Donc, ils ont des calculs à faire et tout ça. Aujourd'hui, vous savez, le next plus ultra de la pédagogie, c'est ce qu'on a maintenant. Je fréquente pas mal les écoles d'ingénieurs, parce que je suis chargé pour le réseau lassallien des écoles d'ingénieurs. Il y a ce qu'on appelle les « serious games ». Les jeux sérieux. Bon. Les frères avaient déjà inventé ça. Bon, évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas avec les mêmes techniques. Ce n'est pas le petit train, c'est autre chose. Mais c'est exactement la même idée, la même intuition. On apprend en faisant. Et très vite, bien sûr, le collège va s'agrandir. Et une autre ferme va être achetée. Ce qui va permettre d'améliorer le collège avec un gymnase, avec de vastes réfectoires, des salles de dessin, etc. Ça aussi, c'est fondamental. Il faut que les élèves se sentent bien à l'école, et pour ça, il faut qu'ils aient un cadre où ils se sentent bien. Et en plus, le collège ouvre une école gratuite. Vous savez, la gratuité, c'est quelque chose qui tenait au cœur des frères. Mais là, ils ne pouvaient pas, un pensionnat n'est pas gratuit, forcément. Donc ils ouvrent une école gratuite pour les enfants du quartier et qui accueille une centaine d'enfants. Et on l'appelle l'école Saint-Ignace parce que le quartier est passé sous le patronage du grand saint basque, donc fondateur de la Compagnie de Jésus. Et le collège n'a pas seulement un rayonnement en terre d'Espagne, il accueille des jeunes venus d'Amérique latine. On va trouver des Mexicains, des Argentins, des Uruguayens, des Cubains, des Colombiens. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ces élèves-là vont manifester une fidélité. Et pendant très longtemps, les anciens élèves du Mexique et les anciens élèves de Bayonne se réunissaient le même jour, les uns au Mexique, les autres à Bayonne, en signe de cette relation forte qu'ils avaient nouée entre eux. Bon, et même les Mexicains poussaient jusqu'à revêtir l'uniforme du pensionnat Saint-Bernard. Alors, vous voyez aussi, j'ai oublié de le dire, regardez, il y a une monnaie spéciale. Ah ben, il y a de l'argent, évidemment, qui n'a pas de valeur, mais qui permet de toucher ce que c'est que de l'argent. Et donc, voilà, pensionnat San Bernardo, ben vous avez donc trois photos, des élèves en uniforme, vous avez, bon, les frères, en uniforme aussi, et vous avez, bien sûr, la musique qui joue un rôle important. Oui. Donc, c'est vraiment le pensionnat Saint-Bernard va non seulement jouer un rôle entre la France et l'Espagne, mais va rayonner dans toute l'Amérique latine. Et la vie au collège ne se réduit pas aux études scolaires. C'est-à-dire, on est dans un pensionnat, il faut occuper les élèves toute la journée et ils n'ont pas de vacances. Hein. Donc, va se développer des tas d'activités artistiques, musique, dessin, etc., sportives. Voilà encore d'autres photos prises du collège San Bernardo. C'est les frères espagnols qui m'ont communiqué ces photos. Donc, vous voyez, les activités sportives. Vous avez l'orchestre. Vous avez ici, en bas, la photo d'en bas, on a l'impression qu'ils font du kung-fu, mais je pense que c'est plutôt des mouvements d'escrime. Et puis, vous avez d'autres activités. Oui. Donc c'est un collège où il y a une vie énorme. Mais il va se passer un événement qui va influencer l'histoire du collège. À nouveau, nouveau virage qui va se profiler. Qu'est-ce qui se passe? Éclate en 1914 la Grande Guerre. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, va affecter le collège dans la mesure où les frères qui avaient été exilés de leur pays reviennent le défendre. C'est que le gouvernement français se rappelle qu'il y a des Français hors de France et qu'on a besoin de soldats. Donc, on rappelle, tous les religieux, on leur dit « revenez en France ». Il y a un frère qui dira ceci, « nous revendiquions avec fierté notre qualité de Français qui ne nous donnait pas le droit d'habiter le pays, mais nous laissait celui de mourir pour le défendre ». Et dès septembre, un frère qui va jouer un rôle important, dans la dernière étape, j'allais dire, du pensionnat, le frère Alban, il va se retrouver prisonnier et il va être expédié en Russie. Je ne sais pas pourquoi ils ont expédié en Russie, dans un camp de prisonniers, mais enfin, voilà. Alors, on va le retrouver, ce frère. C'est pour ça que je le signale. Un autre est tué, et d'ailleurs, beaucoup d'anciens élèves vont être tués. Et pourtant, le collège va continuer à vivre. Et même, le lien avec la France va prendre un relief singulier. Imaginez, les Français, ils sont attentifs. Et ce qui se passe, alors, le collège Saint-Bernard, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se dote du premier poste de radio amateur installé à Saint-Sébastien. Et tous les jours, il y avait le communiqué de 3 heures, c'est-à-dire, on donnait les nouvelles du front. Pour autant que c'était les nouvelles que les gens connaissaient, hein. Je sais pas, on ne disait pas forcément tout, loin de là. Mais tous les jours, à 3 heures, il y avait les nouvelles du front. Et on vit avec le lien avec la France. Bon, la guerre finit, mais le séjour à Saint-Sébastien va continuer jusqu'en 1927. Même si les frères envisagent sérieusement de revenir en France. Et ils font un pari sur l'avenir. Moi, je suis admiratif de ces hommes qui sans cesse anticipent l'avenir. Ils font un pari sur l'avenir parce que la guerre n'est pas terminée. Et nul ne sait comment elle va se terminer. Et qu'est-ce qu'il en sera des religieux qui sont chassés jusque-là de la France? Mais les frères se disent peut-être que la guerre va changer la problématique des religieux. en France. En effet, la perspective de l'État de poursuivre ce qu'il faut bien appeler une proscription risque de soulever des protestations. Beaucoup de religieux ont répondu à l'appel de venir défendre leur pays. Certains l'ont payé de leur vie. Tous ceux qui ont combattu ont connu la fraternité des tranchées et de ce fait ont noué des liens forts, fraternité d'armes, comme on dit. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que le gouvernement français va continuer cette politique de proscription ? Et finalement, cette politique, elle ne va pas continuer. Parce que les anciens combattants protestent. Quand on dit aux frères, aux religieux, « Bon, ben, maintenant la guerre est finie, retournez dans le pays », c'est plus possible de dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les frères se disent « Ah, ça va peut-être bouger ». Et en plus, du côté des frères, il y en a certains qui se sont, comme on dit, sécularisés, c'est-à-dire qui ont quitté le mode de vie des frères, mais qui vivent comme des frères. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre en communauté, parce que c'est interdit. Et on m'a raconté qu'à Saint-Genèse de Bordeaux, les frères avaient toujours, ils étaient restés dans le pensionnat comme instituteurs ou comme professeurs, puis comme c'était en pensionnat, ben, ils vivaient avec sur place. Et on m'a dit un jour que ces frères-là, ils avaient toujours un jeu de cartes dans la poche. Parce que quand il y avait une descente de police, pour vérifier que ce n'était pas une communauté qui était en train de se reconstituer, immédiatement ils se mettaient à jouer aux cartes. Pas interdit les gens de jouer aux cartes quand même. Oui. Bon. Donc, il y a cette expérience-là. Des frères qui sont restés sur place, bon, cachés, mais enfin qui sont sur place, et qui finalement y arrivent. Alors, faut-il implanter à Bayonne à nouveau un collège, Saint-Bernard ? Et les frères hésitent. Certains pensent qu'il faut plutôt aller vers Pau pour ouvrir une école d'agriculture. C'est-à-dire, du côté espagnol, on garderait l'école de commerce et le baccalauréat espagnol, et du côté français, on ouvrirait une école d'agriculture à Pau. Mais finalement, les frères choisissent le retour à Bayonne. Bon, sans doute, peut-être par attachement à l'origine, bien sûr, après tout, hein, c'est légitime, mais aussi parce qu'ils pensent que les conditions sont pas mauvaises à Bayonne, parce que bah, le souvenir reste, et qu'il y a des anciens élèves à Bayonne qui demandent le retour des frères. Donc finalement, on arrive à la dernière étape de Saint-Bernard que vous connaissez. C'est le retour à Bayonne. Alors, bien entendu, il n'est pas question de revenir à l'ancien établissement, à l'ancien emplacement. C'est les Dames de France. C'est devenu un magasin. Bon. Donc, il faut trouver un point de chute. Mais le point de chute, il ne faut pas qu'il se trouve à l'intérieur de la ville, ça, c'est pas possible, mais il ne faut pas qu'il se trouve trop loin. Donc, les frères ont cherché s'il n'y a pas un lieu possible. Et finalement, ils tombent sur une propriété dite Guillot, qui se trouve à proximité des remparts et qui correspond bien à ce critère finalement de ne pas trop éloigner tout en n'étant pas à Bayonne, enfin dans le centre de Bayonne. Et elle appartient, cette propriété, à monsieur Charles Estegui. Et finalement, un chanoine de la cathédrale, curé de la cathédrale d'ailleurs, le chanoine Juan Chuto, ancien élève de Saint-Bernard, eh bien, se charge de traiter l'affaire avec le propriétaire. N'oublions pas que juridiquement, les frères n'existent plus. Donc, ils ne peuvent pas acheter et vendre. Pas possible. Ils n'existent plus également. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, avec l'appui d'une cinquantaine de bayonnais, ils créent une société anonyme qu'ils vont appeler la Foncière de Bayonne. Et la première assemblée constitutive a lieu au presbytère. J'ai mangé à midi au presbytère. Et ben voilà, première assemblée constitutive de cette société, c'est au presbytère que ça se passe, et la propriété est achetée. Eh bien, il faut attendre le 1er octobre 1919, mais attention, elle est achetée en 1917, cette propriété. La guerre n'est pas finie. Donc on fait un pari sur l'avenir. Et il faut attendre le 1er octobre 1919 pour voir la première rentrée dans ce qu'on appelle le Petit Saint-Bernard. Voilà le Petit Saint-Bernard. Ce sont les écuries de la Villa Charles-Stegui. Les frères ouvrent deux classes, vous voyez, le cloître au début, deux classes. Eh bien là, dans ces écuries, ils ouvrent à nouveau deux classes. Bon. Et leur idée, c'est que les enfants, disons que c'est l'équivalent du CM1 et CM2, partent ensuite à Saint-Sébastien pour continuer leurs études avec à Saint-Bernard. Mais très vite, les frères se disent, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que l'école végète, c'est trop petit. Et en même temps, c'est compliqué pour les parents de faire l'aller-venue entre Saint-Sébastien et Bayonne, mais c'est pas trop loin. Donc ils décident en 1923 de rapatrier le collège Saint-Bernardo à Bayonne. Et en 1927, un architecte est contacté. C'est un ancien élève, M. Casalis. Et il est chargé d'élaborer un projet de construction. Et le 12 mars 1928, Mgr Gieur bénit la pose de la première pierre du troisième collège Saint-Bernard. Même quatrième, si on compte le Saint-Esprit. Et malgré l'ampleur de la construction, enfin vous connaissez maintenant le collège Saint-Bernard dans sa actuelle, eh bien malgré l'ampleur de la construction, eh bien le collège Saint-Bernard est bâti en 6 mois. En 6 mois, c'est pire que les Chinois. Hein. Et j'ai rencontré M. Mendibourg, le maire d'Anglet, qui m'a dit que tout jeune, il a travaillé sur le chantier. 200 ouvriers qui travaillaient pas nuit et jour, mais presque. Et en 6 mois, eh bien, le collège est terminé. Et le constructeur de ce collège, eh bien, c'est le frère que vous avez là, qui est le frère Alban, qui est le frère qui va suivre la construction de ce collège, c'est le frère Alban qui avait été prisonnier en 14, et qui veut non seulement que le collège soit construit, mais qui veut un beau collège. Parce qu'il dit, les enfants, ils ont besoin de beauté, de vivre dans la beauté. Et en même temps, il faut que ce soit quelque chose de commode, pédagogiquement parlant. Donc, c'est un peu le cahier des charges. Et ça a donné ce que vous voyez là. Et durant les vacances de 1928, eh bien, le déménagement se fait de Saint-Bernard, de Saint-Sébastien à Bayonne. Et les frères ont décidé de quitter la ville et ont vendu le collège aux jésuites. Voilà. Et vous avez actuellement un collège jésuite qui est l'ancien Saint-Bernard. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver, non, ce n'est pas là. Voilà. Vous voyez bien le vieux bâtiment au fond, là. Ça, c'est le collège Saint-Bernard. Mais vous avez Jésuitac, hein, qui dit bien que c'est les jésuites. Alors, assurez-vous, il existe un collège La Salle à Saint-Sébastien, parce que les frères espagnols vont créer un collège que vous pouvez voir. D'ailleurs, si vous allez à Bilbao, le long de l'autoroute, vous allez voir à un moment donné une étoile. Hein, et c'est le collège des frères de Saint-Sébastien. Bon, collège La Salle. Et le 8 octobre s'effectue la rentrée dans le nouveau pensionnat Saint-Bernard, qui désormais est redevenu bayonnais. Bon, je vais assez vite maintenant, je m'excuse, mais j'abuse de votre patience. Et alors, je vais aller très vite pour vous dire, bon, quels sont quelques éléments quand même qui sont à relever. D'abord, le pensionnat Saint-Bernard, c'est une école chrétienne. Donc il n'est pas surprenant que les frères accordent une importance particulière à la formation spirituelle de leurs élèves. Et c'est pourquoi ils vont se préoccuper de terminer la chapelle. Parce que quand le collège ouvre, il n'y a pas de chapelle encore. Donc ils vont construire une chapelle, mais ils prennent leur temps. Pourquoi? Parce que pour eux, la chapelle, c'est un lieu pédagogique. Toujours cette idée. Tout est pédagogique. Tout peut être pédagogique. Et la chapelle va devenir un lieu pédagogique. Et elle sera inaugurée en 1933. Et ils vont passer commande à des artistes locaux, justement, pour que la chapelle, elle soit le lieu pédagogique. Et là, vous avez plusieurs artistes qui vont travailler. Vous avez le grand Christ qui se trouve au fond de la chapelle et qui est dû à M. André Trébuchet. Et j'ai eu le plaisir de parler avec sa fille qui se trouve parmi nous. Bon. Et puis en même temps, eh bien, vous avez le plafond. Alors, rappelez-vous, les peintures du centre, elles viennent du pensionnat Saint-Bernard, centre de Bayonne. Mais Monsieur et Madame Trébuchet vont peindre tout autour des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui se répondent. Donc il y a un souci pédagogique. Et je me rappelle un élève, un petit sixième qui débarquait à Saint-Bernard, puis au bout de quelques temps, on est allé voir la chapelle, on a visité la chapelle, et puis on lui montrait les scènes, etc. quoi. Et il s'arrête devant la scène où il y a Adam et Ève représentés. Adam et Ève, nus, bien sûr, mais quand même avec un minimum pour ménager la pudeur. Et alors, l'élève regarde ça, et puis il me dit, « Ah, il faudra que je revienne en automne. » Bon. Oui. Mais c'est vraiment un lieu pédagogique. Donc, ensuite, vous avez aussi, donc, et puis vous avez les vitraux aussi, et là, vous avez un vitrail qui vient d'être rénové, qui est le vitrail de Saint-Ignace. Vous voyez, les frères ne sont pas rancuniers. Ils ont mis Saint-Ignace dans leur chapelle. Voilà. Et puis, il y a un orgue. Enfin, bon, je passe parce que ça serait trop compliqué, trop long. Et, évidemment, il y a là aussi la pédagogie. Déjà, la chapelle répond à un besoin pédagogique, à un souci pédagogique, mais il y a aussi la pédagogie, j'allais dire ordinaire, qui est une préoccupation permanente. Et alors, les frères, dans ce nouveau Saint-Bernard, rapatrient la salle de commerce que vous avez vue. Et voilà la salle de commerce du pensionnat à Bayonne, telle qu'elle était. Bon. En même temps, il y a aussi le sport, qui occupe une place importante, et en particulier le foot. Et les équipes s'illustrent dans différents pensionnats. Et vous avez ici une photo représentant, plutôt extrait de carte postale, représentant les élèves de pensionnat Saint-Bernard, des équipes de foot. Il y a l'enseignement artistique. Puis il y a aussi quelque chose qui apparaît à Saint-Bernard qui n'existait pas jusque-là. C'est le cinéma. C'est-à-dire que ben, les pensionnats, il faut les occuper. Et les frères se disent, après tout, le 7e art, c'est un art comme un autre. Et donc, ils font des séances de cinéma. Alors, c'est le cinéma muet encore à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut mettre de la musique. Donc, il y a un frère qui ont équipé avec deux tourne-disques, et suivant les scènes, pof, il met un disque triste, un disque gai, etc. C'était le DJ de l'époque, vous voyez? Bon. Et les parents sont invités, bien sûr, à ces séances. Ensuite, la vie continue. Seulement, là encore, les événements politiques vont rattraper. En 1936, éclate la guerre civile espagnole. Or, Saint-Bernard a noué des liens forts avec l'Espagne, forcément. Et donc, Saint-Bernard va accueillir des réfugiés espagnols qui viennent, en particulier tout un groupe de séminaristes du séminaire de Santander. Mais il n'y a pas que des Espagnols dans ce séminaire, il y a des Mexicains, il y a des Sud-Américains, etc. Mais Saint-Bernard a l'habitude, ce n'est pas un problème. Voilà. Et puis, éclate 39-45. Saint-Bernard réquisitionné, hôpital militaire, 500 lits. Et il faut, pendant ce temps-là, continuer la classe. Donc vous voyez le problème. Et puis, donc, on fait des baraques en bois comme on peut. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des anciens qui ont connu ça. Bon, les internes, ils sont transportés par car, par l'armée, hein, dans le château de l'Ardache, qui est une maison de campagne un peu du pensionnat Saint-Bernard. Bon, au frais du pensionnat. L'armée ne paye pas. Hein. Et puis, au mois de juin 1940, Saint-Bernard devient une caserne de l'armée allemande. 250 soldats allemands qui s'installent à Saint-Bernard. Vous voyez la cohabitation ? Parce que les frères continuent à enseigner, ils veulent continuer à enseigner. Les Allemands s'installent, ils occupent tous les préaux, parce qu'ils entassent le matériel, ils occupent une bonne partie, donc les frères, eh bien, ils se servent comme ils peuvent dans des baraquements. Et ça va durer 4 ans. Et ça a failli très mal se terminer. Parce que au moment de la débâcle de l'armée allemande, eh bien, les Allemands mettent le feu au matériel qu'ils ne peuvent pas emporter. Et donc, tous les préaux détruits. Et en plus, ils veulent mettre le feu au bâtiment principal. Et c'est là qu'intervient le directeur, le frère Albert, qui va trouver le commandant et qui lui dit « Cet acte de vandalisme vous déshonorerait. » Apparemment, c'est un argument qui a fait mouche. Et le commandant n'ordonne pas la destruction du bâtiment principal. Seulement, le problème, c'est que le frère Albert, ses ennuis ne s'arrêtent pas là. Parce que, en 1945, il est arrêté et emprisonné parce qu'il a été dénoncé comme étant quelqu'un qui a eu une attitude assez accommodante avec les Allemands et qui, en plus, a favorisé l'évasion le départ de Collabo. Oui, il y a toujours des résistants de la 12e heure. Hein. Donc il est emprisonné et finalement ça n'a pas de suite parce que premièrement on va s'apercevoir que ce qu'il a fait effectivement passer des gens en Espagne, mais c'était pas des Collabo. C'était au contraire des aviateurs, des jeunes qui partaient pour combattre avec la résistance, avec plutôt la France libre. Et donc on a des témoignages qui arrivent, quand les gens ont appris ça, ben, ils ont envoyé des témoignages. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et donc il est libéré, finalement, avec l'appui, c'est assez étonnant, du chef de la cellule communiste de Bayonne. Donc vous voyez, voilà. Donc le pensionnat, eh ben, le premier souci après la guerre, c'est de remettre tout en œuvre, tout en ordre, je dirais. Et puis, tout d'un coup, une opportunité inattendue se présente. C'est qu'à juste à côté du pensionnat Saint-Bernard, il y a une maison qu'on appelle Grand Vigne, qui appartient à une vieille dame, 90 ans. Cette vieille dame, je crois qu'elle était d'origine juive, et quand elle revient, 90 ans, elle ne veut plus s'occuper de cette maison. Donc elle dit aux frères, si vous voulez, je vous la vends. Ben, les frères disent, c'est bien gentil, mais on a tout le pensionnat à rebâtir, enfin, une partie du pensionnat à rebâtir. On n'a pas l'argent. Très bien. Bon. Et puis un jour, les frères apprennent que cette maison, elle risque d'être vendue pour devenir un pensionnat de jeunes filles. Alors là, tout d'un coup, les frères vont trouver les ressources nécessaires. Parce qu'ils ne se voyaient pas en train de faire le rempart entre les jeunes filles et puis leurs élèves. Voilà. Donc, la maison Grand Vigne est achetée avec le parc, 2 hectares. Bon, vous voyez la maison telle qu'elle était il y a quelques années. Enfin, moi, quand j'étais élève, j'étais dans cette maison comme ça, là, la celle de droite, la de gauche, pardon. Et puis aujourd'hui, la maison Grand Vigne. Bon, c'est là que les frères vont installer le primaire. Voilà. Et puis, en même temps, eh bien, les équipes, la vie continue, l'équipe côté sportif, les équipes de foot remportent des succès. Bon, moi j'ai fait partie de l'équipe de foot et j'ai joué avec quelqu'un qui a fait une bonne carrière dans le foot, hein, qui s'appelle Jean-Claude Larieux, et qui a été goal de l'équipe de France amateur. Et puis ne parlons pas aussi de Didier Deschamps, qui est un ancien élève du pensionnat Saint-Bernard, que j'ai connu quand il était élève. Bon, donc vous voyez, la tradition sportive s'est maintenue. Alors, j'arrive à la fin, le pensionnat va vivre de profondes mutations. Je les énumère. un lien de plus en plus étroit avec l'éducation nationale. Jusque-là, je dirais, ils font ce qu'ils veulent, avec les contrats. À partir de ce moment-là, il faut suivre les programmes de l'État, etc., etc. Bon. Ensuite, le rôle grandissant des laïcs, d'abord comme enseignants, il y a de moins en moins de frères, ensuite comme responsables, y compris de direction et d'animation pastorale. Nous avons parmi nous un animateur pastoral qui a succédé aux frères comme animateur pastoral. Et en 1991, au dernier frère directeur, le frère Martin Goykoetxea, vous avez dû connaître certains, eh bien, succède une directrice, Madame Ouar, qui était professeure à Saint-Bernard. Donc, voyons, on passe directement des frères aux femmes. Quand même, remarquez quand même, notre période. Bon. Et on peut aussi noter le rôle grandissant des parents, d'élèves. Une association très dynamique, moi j'ai connu comme professeur une association très dynamique de parents d'élèves. Et en 1968, autre mutation importante, le niveau lycée disparaît du fait de la réorganisation de l'enseignement catholique à Bayonne, puisque désormais le lycée est à Villapia, où j'ai été élève et professeur, et le collège Louis de Gonzague disparaît, et les jeunes du collège viennent à Saint-Bernard. Plus d'autres écoles qui vont s'ajouter à Saint-Bernard, Sévigné, l'école Sévigné, peut-être connue, et l'école Saint-Honoré, Saint-Bernard-des-Prés. Voilà. Mais tout ça, ça ne nuit pas du tout au développement de Saint-Bernard. Au contraire, Saint-Bernard va croître de façon, j'allais dire, très importante. Aujourd'hui, il y a 1360-1050 élèves. Et dernière évolution, et non des moindres, les premières filles arrivent au collège. Alors voilà quelques images. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la cour de récréation avec le fameux séquoia qui s'est abattu un jour sans crier gare. Heureusement, ce n'était pas une heure de récréation. Sinon, imaginez le carnage. Le primaire, que vous voyez devant le bâtiment du collège, etc. Bon, voilà. Et les filles qui arrivent au pensionnat Saint-Bernard. Hein, alors, il y a quelques frères qui ont dû se retourner dans leur tombe. Hein, mais bon, c'est peut-être aussi, d'autres ont dû se dire, ben, finalement, ça montre bien que le collège Saint-Bernard continue de s'adapter aux évolutions sociétales de notre époque. Je conclue. Entre un chêne et un gland, il n'y a pas de commune mesure. Ni par la forme, ni par la taille. Aucune relation, semble-t-il. Et pourtant, tout le chêne est dans le gland. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux classes installées dans le cloître de la cathédrale de Bayonne et le collège Saint-Bernard, la salle actuelle. Et pourtant, il y a entre eux une filiation que les événements politiques, sociaux, religieux n'ont pas brisée. Pour nourrir cette continuité, il a fallu un groupe d'hommes passionnés par l'éducation des enfants et des jeunes, au point d'y consacrer leur vie. Il a fallu en outre qu'ils soient convaincus de la pertinence de leur projet éducatif. Il a fallu une ville qui a reconnu dans ce projet éducatif un élément utile à son développement, à la formation de citoyens compétents, actifs et responsables. Il a fallu une église capable de comprendre que l'école peut être un lieu d'annonce et d'expérimentation de la bonne nouvelle de Jésus. Eh bien, le chêne lassalien enraciné à Bayonne, qui est le pensionnat Saint-Bernard, a connu des tempêtes, comme le chêne de la Fontaine. Il a même été déraciné. Et on a pu croire qu'il ne repousserait jamais en terre bayonnaise. Et pourtant, il est là, bien vivant, grâce à la foi de tous ceux et celles qui continue de penser que l'éducation, aujourd'hui comme hier, c'est la condition d'un avenir et d'une croissance humaine, non seulement pour les personnes qui en bénéficient, mais pour la société dans laquelle ces personnes vont s'insérer. Et pour l'Église, c'est un lieu où peut émerger des chrétiens lucides, engagés, qui savent pourquoi ils croient, parce que cato ne rime pas avec idiot, et qui en sont heureux. Merci.
Les tribulations d'une institution lassallienne bayonnaise, le pensionnat Saint-Bernard. Vous venez de suivre la seconde des dernières parties de la conférence du frère Jacques Duiteau, frère des écoles chrétiennes originaires de Bayonne, professeur et délégué à l'enseignement supérieur de la Congrégation des frères des écoles chrétiennes. Cette conférence a été enregistrée à la mairie de Bayonne le 28 janvier 2020. Elle était organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville de Bayonne dans le cadre du tricentenaire de la mort de Saint Jean-Baptiste de La Salle, 1651-1719. Vous pouvez écouter l'intégralité de cette conférence du frère Jacques Duiteau sur notre site internet www.lapourdi.net.